Alphonse Daudet, Soutien de famille. Chapitre 00, Prélude. La jeunesse de Raymond Eudeline. Un garçon de salle majestueux passait, porteur d'une lampe. Victor Eudeline toussa pour se donner du ton et demanda qu'on voulût bien rappeler sa présence à monsieur le proviseur. L'homme, sans se retourner, fit signe oui et disparut dans le noir d'une double porte. Assis sur la molesquine d'un coffre à bois, le solliciteur attendait depuis une heure dans cette longue antichambre de lycée parisien, aux carreaux dérougis, aux murs couverts d'une immense carte géologique vernissée. Le jour défaillait, le jour de la fin du printemps, et par la fenêtre de l'antichambre, il voyait de hauts rectangles de gaz s'aligner à tous les étages sur cette cour assombrie qui, pour lui, débordait de triomphants souvenirs. C'est là que 3 ans de suite, et l'été dernier encore, Raymond et Antonin, ces deux garçons, têtes de classe à Charlemagne, lui avaient donné la joie d'entendre acclamer, fanfarer, ce nom si humble d'Eudeline, le nom d'un ouvrier du meuble, devenu patron à coups de chance et d'énergie. Oh, cette cour en rumeur, remplie d'enfants, de parents en gala, où circulaient les hermines, les chamarrures. Et son passage dans la foule entre ses deux fils, chargés de couronnes et de succès. Les murmures de gloire autour d'eux et de ce pauvre papa à barbe fauve, crevant d'orgueil et de santé dans une redingote reluisante, le papa Eudeline, successeur de Guillaume Mayaume, un des plus gros fabricants du faubourg du Temple. Puis, sitôt après la distribution, le bonheur de sauter en voiture avec les enfants, voiture découverte où flambait la dorure des livres et des couronnes, traverser Paris, se montrer sur tous les boulevards en allant chez leur ami Pierre Isoard au Palais Bourbon, de là chez Mademoiselle Javel, leur propriétaire, dans son hôtel des Champs-Élysées. Monsieur le proviseur vous fait demander. À cet appel, jeté d'un ton rogue, Eudeline sortit en sursaut de son rêve, pénétra dans le bureau où un vieux monsieur tout en gris, coiffé en casseur d'un bonnet de velours sur l'oreille, achevait d'écrire une lettre et, sans même regarder le bon géant debout devant lui, commença d'une voix distraite « J'espère, monsieur, que vous venez enfin vous mettre en règle avec l'administration. » « Malheureusement, non, monsieur le proviseur. Je venais, au contraire, vous prier avec instance. » Et le pauvre diable, décontenancé de cet accueil inattendu, bégayait, s'étranglait, les joues violettes d'une montée de sang. « Excusez-moi, » murmura-t-il enfin, posant sur la table un haut de forme trop neuf et gigantesque qui le gênait presque autant que ce qu'il avait à dire. « Vous me connaissez à peine, monsieur. J'aurais voulu, avant de vous présenter ma requête, vous raconter qui je suis et quels sont mes répondants. » Le fonctionnaire allait protester contre une trop longue histoire, mais le mot de répondant le mit en garde. Par ces temps de démagogie, les tout-petits ont parfois des protecteurs tout en haut. Il se résigna donc à apprendre que Victor Eudeline, fils de ses heures, était né rue de l'Orion, dans les copeaux d'une boutique de menuisier. Après 2 ou 3 années de primaire, il entrait comme apprenti chez Guillaume Mayaume et n'en était plus sorti. Le patron, après lui avoir donné sa fille, lui laissait aussi son commerce, qui, malheureusement, ne devait pas prospérer entre les mains d'Eudeline comme dans les siennes. « Vous le voyez pourtant, monsieur le proviseur, j'ai l'air d'un bon garçon sans rien pour rebuter la clientèle. Je crie, ça, je crie, je suis violent, le sang tout de suite à la peau. Mais du mal à qui que ce soit, jamais je n'en ai fait. Une faiblesse, par exemple, qui a dû me nuire. J'aime trop le bâtisse. Ce que j'ai dépensé en atelier, en phalanstère, maison d'ouvrier. » Il s'arrêta devant le geste irrité dont le proviseur dressait son bonnet à gland. Mais sur un signe de continuer, Victor Eudeline reprit avec ardeur. « Malgré tout, je m'en serais tiré, soutenu par d'excellents amis, des personnes très puissantes, Pierre Isoard, sous-chef de la scénographie à la chambre, garçon très fort, marié à une niçoise adorable, délicate de poitrine malheureusement. Mais monsieur le proviseur doit le connaître, mon ami Isoard. Un ancien professeur de l'université, démissionnaire de 52. » L'autre riposta sèchement « Connais pas. » J'avais aussi comme haute protection ma propriétaire, Mademoiselle Javel. Parente du député. Justement, et sous-secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur. C'était sa tante. Ah, monsieur, la noble créature, aussi riche que généreuse. De voir la peine que je me donnais pour élever mes enfants, pour faire un peu de bien à mes ouvriers, elle nous avait pris en amitié, moi et ma femme. Les loyers en retard, on ne les comptait plus avec elle. Notre bail touchait à sa fin, elle l'a renouvelé pour 15 ans, sans un sou d'augmentation. Jusqu'à mon goût désordonné du bâtiment, qu'elle trouvait moyen d'encourager, en me cédant pour rien le droit de construire dans ma cour un grand atelier que je pourrais louer et qui me paierait presque mon terme. L'immeuble achevé, l'écriteau mis, j'allais me trouver hors d'affaires. Tout à coup, Mademoiselle Javel meurt subitement d'une embolide. Non, ce n'est pas ça, je vous demande pardon, les mots, je n'y suis pas bien fort. Et je reste en face de son neveu et seul héritier, ou plutôt de son homme d'affaires, Maître Petit-Sanier, avoué près de la cour d'appel, lequel m'a traité comme un bandit, exploiteur de vieilles femmes, et formellement averti qu'au premier terme en retard, M. Marc Javel rentrerait en possession du bail, ainsi que de l'immeuble extorqué par mes doles à la chère demoiselle. Maître Petit-Sanier a pris l'intérêt de son client. Je ne saurais l'en blâmer, ronchonna le haut administrateur, dont le visage se durcissait depuis un moment. Eudeline, redevenue subitement très pâle, de cette pâleur rosâtre des sanguins, à large méplat, se retint pour ne pas crier, se porter à quelque violence, et, serrant le bord du bureau entre ses doigts velus et courts, il continua très posément. « Pensez, monsieur le proviseur, si je me suis efforcé pour que le terme, chez nous, ne fût plus en retard. J'ai sacrifié à ça les derniers bijoux de ma femme qu'elle gardait pour notre petite, ses brillants, son cachemire, jusqu'à engager. » L'énormité de l'aveu qu'il allait faire à cet homme l'effraya et, se reprenant, « Jusqu'à priver mes enfants de cette éducation que j'étais si fier de leur donner, ne l'ayant pas eue moi-même. Ah, monsieur, moi qui, tout gamin, m'arrêtais devant la grille de Charlemagne avec envie, à regarder ces enfants de riches qui entraient là pour apprendre, moi qui ai tant souffert de mon ignorance et dont c'était la gloire de me dire « Mes garçons seront savants, mes garçons sauront le latin. » Vous figurez-vous mon désespoir d'être réduite à les garder pendant des mois à la maison, à employer l'argent du collège pour le terme? J'en pleurais avec la mère de les voir traînasser en pantoufles d'une pièce à l'autre. Surtout, l'idée que tant de sacrifices ne serviraient à rien, qu'on serait vendu tout de même, et c'est ce qui nous arrive. On va nous vendre. » Des sanglots l'étouffaient. À un mouvement du proviseur, il eut la force de les refouler au plus loin. « Oh, rassurez-vous, je ne viens pas vous emprunter d'argent, monsieur, seulement vous demander une grâce. On va composer bientôt pour les prix. Laissez mes enfants venir au lycée les jours de composition. Tous deux sont sûrs, chacun dans sa classe, d'avoir des nominations à la fin de l'année. Ne les en privez pas, ne m'en privez pas surtout, c'est la seule joie qui me reste. » « Impossible, monsieur, cela ne se fait jamais. Ces jeunes gens ne pourront rentrer en classe complète, que si vous payez le trimestre en retard. » Cramponné des deux mains au bureau comme à son idée, Eudeline insista, supplia. « Pour l'aîné seulement, celui-là était en troisième, l'année du grand concours, qu'il pût y aller avec ses camarades. » Le proviseur se leva d'une détente. « L'administration s'y oppose. » En même temps, il posait le doigt sur un bouton d'appel électrique pendu devant lui. Sans attendre l'entrée du garçon de salle, Eudeline s'inclina et sortit. Tout à l'heure, en montant le large escalier de pierre où l'on allumait le gaz, un espoir lui restait au cœur, sa confiance en ces messieurs du lycée, son respect idolâtre pour ceux qui savaient le latin. Il s'attendait, non pas à des secours effectifs, mais à de bonnes paroles, à des citations consolantes tirées des anciens. Et si son orgueil avait reculé pendant des mois devant cette démarche, il l'avait faite avec la certitude absolue de réussir, défendu contre tous ses malheurs par l'idée que Raymond irait au concours général et que, pour la première fois, le nom d'Eudeline retentirait sous les voûtes de la Sorbonne. À présent, cet espoir écroulé, c'était la fin de tout. Entre tant de catastrophes, il ne voyait plus que celle-là. Où trouver l'argent des deux trimestres en retard? En franchissant la grille de Charlemagne, un nom lui traversa l'esprit. Isoard, l'employé du palais Bourbon, à qui l'on n'avait pas osé dire que, depuis 3 mois, les enfants n'allaient plus au lycée. Mais que d'objections tout de suite. Parti pour conduire sa femme à Nice, Isoard ne serait peut-être pas de retour. Et puis, on lui devait tant déjà. Les dernières quinzaines de la paix, les 10 000 francs pour la construction. Non, non, il fallait chercher autre chose. Mais quoi? À quelle porte frapper? Tout à coup, sous la fraîcheur d'une pluie fine qui mouillait ses cheveux, ses tempes chaudes, il s'aperçut qu'il tenait encore son chapeau à la main. Dans quel état cette visite l'avait mis? Ah, ce vieux Robert Macaire en bonnet de concierge, il ne se doutait pas qu'à un moment, sa table, son encrier énorme, tout son amoncellement de cartons et de paperasses avait manqué sauter en l'air, et lui avec. De cette colère contenue, Eudeline se sentait encore les mains molles, les jambes fauchées aux genoux. Sur le trottoir miroitant et boueux, il marchait de travers, comme l'unique fois de sa vie où il s'était grisé, à ce banquet des voyageurs de commerce, présidé justement par Marc Javel. En avait-il du souffle ce soir-là, le député d'Indre-et-Loire? Comme elles enflaient son gilet blanc et ses pectoraux de grand bel homme, les périodes sonores qu'il leur débitait, la voix mouillée, les paupières battantes, sur les devoirs du bon français dans leur présente, la charité laïque et républicaine. Après tout, peut-être y croyait-il à cette solidarité humaine dont il parlait avec tant d'éloquence. Et c'est son avoué, Petit Sanier, qu'il incitait à des mesures aussi féroces que cette vente annoncée pour samedi. Et si j'y allais chez Marc Javel, chez lui, rue de la Ville-l'Évêque, si j'allais lui demander grâce, à lui, pas à l'homme d'affaires? Ainsi songeait Eudeline en traversant la cour de la fabrique. Les ouvriers venaient de partir, tous les bâtiments éteints, un bec de gaz veillant encore à la comptabilité. Il hésitait au bas de l'escalier, devant la loge. « Quelque chose pour vous, monsieur Eudeline, » lui dit le concierge avec cette voix morne et comme lointaine du subalterne qui sait que la maison n'en a plus pour longtemps. Il prit les 2 papiers qu'on lui tendait, un grimoire d'huissier, la signification de la vente, puis une lettre qu'il ouvrit d'un doigt indifférent et lut d'un trait en doutant de ses yeux. Convoqué pour le lendemain, 11 heures, chez le juge d'instruction. Tonnerre de nom de mille, il avait oublié celui-là. Ce fut comme si la cage de l'escalier lui croulait sur la tête. Il chancela, dit tout haut par 2 fois, on l'entendit du fond de la loge. « Maintenant, mourir, il n'y a plus qu'à mourir. » Il poussa la porte de la caisse au rez-de-chaussée, congédia le comptable, M. Alexis, et ne remonta chez lui que le lendemain au petit jour. Il avait passé la nuit à écrire 2 lettres, recommencé sans doute bien des fois. Si la copie de l'une de ses lettres, plutôt d'un de ses testaments. Mon ami Pierre, voilà les vacances de Pâques finies et la chambre qui rentre. Je pense que vous avez dû laisser votre malade à Nice avec sa chère fille et que ce billet de pas, annonce de mon décès, vous trouvera de retour au palais Bourbon. Oui, de mon décès, vous lisez bien. Des circonstances imprévues qui dépassent mes forces m'obligent à quitter la vie violemment. Ma pauvre femme vous dira, si elle peut, les motifs qui m'ont poussé à cet acte de désespoir. Moi, je n'ose pas, j'aurais trop honte de vous avouer comment votre ami, un vrai de 48, a pu manquer à l'honneur de son nom. Toutefois, je n'ai pas voulu mourir sans vous dire adieu et merci et pardon. Oh, surtout pardon pour ces derniers 10 000 francs que vous m'avez fait prêter et que j'emporte. Si M. Marc Javel, mon nouveau propriétaire, est un honnête homme, il vous remboursera l'argent de cette construction que vous avez payée et dont les loyers seront pour lui. Je lui écris en même temps qu'à vous. J'espère qu'il voudra bien en prendre bonne note et vous aider aussi à obtenir du gouvernement une bourse pour mes garçons, qu'ils puissent finir leurs études, mon Dieu. J'y tiendrai surtout pour l'aîné, Raymond, celui qui doit me remplacer, devenir après mon départ le chef, le soutien de la famille. Celui-là, je vous en prie, mon vieux Pierre, qu'il termine ses classes et ne soit jamais dans les affaires. Le commerce, c'est pire que le bagne. On y risque tous les jours la ruine et le déshonneur. De mes 2 garçons, qu'un du moins y échappe. Sur ce, mon camarade, je vous embrasse une dernière fois en remerciant bien Madame Isoard et Mademoiselle Geneviève de toutes leurs attentions pour ma femme et la petite Dina. Vous pensez, si le cœur me crève, de m'arracher à tout mon petit monde. Mais il le faut, leur bonheur est à ce prix. Vive la République démocratique et sociale. Eudeline Victor. Rentrée depuis la veille dans les trois logements du corps législatif, que l'absence de sa femme et de sa fille lui faisait immense et désolée, Pierre Isoard allait se mettre à table tout seul devant la fenêtre ouverte sur une cour intérieure du palais, pavée de larges dalles où s'entendaient des bruits de verres et d'assiettes d'autres déjeuners d'employés, quand un garçon de bureau lui monta cette lettre. Sans aller jusqu'à la signature, il jeta sa serviette, prit ce qu'il y avait d'argent dans la maison et le premier fiacre qui passait rue de Bourgogne emporta vers le haut du faubourg du Temple ce petit ondu aux noirs sourcils, à la longue barbe grisonnante, qui envoyait ses gestes hors de la portière et clamait dans le fracas des pavés, avec l'emphase et l'accent de Marseille. Eudeline, attendez à ces jours ! Eudeline, forfaire à l'honneur ! Ça, Macareu, je voudrais le voir pour y croire ! Tout le long du faubourg, dont la montée grouillait d'une foule affamée et bruissante, entre les marchands de fruits, de fleurs, de poissons, de légumes, alignant leurs charrettes à bras au bord des trottoirs, dans l'odeur de pain chaud et de friture, la bousculade et les cris de grandes filles en blouse de travail, d'ouvriers à la poitrine nue, une miche sous le bras, un papier huilé à la main, chaque tour de roue confirmait Pierre Isoard dans ses convictions optimistes. Midi sonnait partout, au clocher des églises, dans les cours des fabriques. Midi, l'heure égoïste de la faim, de la vie, qui donne à tous les regards de la rue la même fixité vorace et distraite, l'œil goulu du squale en chasse sous-marine. Se tuer, allons donc. Et déjeuner? Pourtant, lorsqu'en descendant de voiture, il aperçut au fond de la cour d'Eudeline, encombrée de madriers de bois de toutes longueurs et de toutes couleurs, le crépi blanc d'une bâtisse neuve avec cet écriteau sur la toile peinte, vaste local à louer, le Marseillais eut froid dans le cœur. Il croyait l'atelier occupé. Avec la maladie, les voyages, on ne s'était pas vu depuis si longtemps. Il fut plus saisi encore quand un apprenti qui traversait la cour, tête nue et sifflant, lui affirma que le patron était sorti dès le matin et qu'on ne l'avait pas vu rentrer. Sa main tremblait en sonnant au premier étage. Dans l'entrebâillement d'une porte d'ancien logis, exhaussée de trois marches, un blondin de 14 à 15 ans, très long, montra ses joues fripées de larmes, sa mine de pierrot, effarée, anxieuse. « Eh bien, Raymond, qu'y a-t-il ? » demanda le scénographe. Sans répondre, l'enfant l'appela d'un geste éperdu, l'entraîna dans le couloir et croula sur son épaule avec un grand sanglot. « Où est papa, monsieur Isoard ? Dites-nous où est papa ?» En même temps, Isoard sentait sur ses mains des baisers, des larmes brûlantes. C'était l'autre frère, Tonin, un petit rouge, qui, sorti de dessous terre, s'accrochait à lui, lui demandant aussi où était papa, mais tout bas, les dents serrées, avec des craquements nerveux de la mâchoire. Le Marseillais, gagné par cette douleur si vraie, essuyait ses yeux, cherchait quelque chose à répondre. « Mais je ne le sais pas, moi, où est votre père, mes chers enfants ? Je rentre du midi, je suis venu ici par hasard. » Assis entre les deux frères, dans le désordre et le dénuement de la pièce où ils étaient entrés, ils parvenaient enfin à démêler, à travers des chaos de phrases sanglotées et plaintives, le drame de famille auquel il était bien forcé de croire. Leur père avait passé toute la nuit au bureau. Au matin, ils s'étaient réveillés au bruit d'une scène affreuse dans la chambre de leurs parents. Eudeline criait qu'il allait se foutre dans le canal, qu'il n'avait plus que ça à faire. Là-dessus, il était parti en courant, avec leur mère derrière lui, qui pleurait, le suppliait à main jointe de ne pas mourir. Et depuis, les petits étaient là, dans l'attente, sans rien savoir. Isoard essaya de les rassurer. Il connaissait bien leur père, si prompt, si violent, mais tendrement attaché au sien. Quelle catastrophe ne faudrait-il pas pour le pousser à une détermination aussi farouche ? Des catastrophes, monsieur Isoard ! L'aîné prenait en parlant cet air vieillot que la précocité du malheur donne aux enfants. « Nous les avons eues toutes depuis que vous êtes partis. Regardez autour de vous, la pendule s'en est allée avec les rideaux. Il n'y a presque plus de meubles. Dieu sait ce qu'on n'a pas vendu, engagé, pour payer ce terrible terme. C'est Tonin qui portait les affaires au Mont-de-Piété. Moi, je n'osais pas. Papa et maman étaient trop connus. Mais ce n'est rien encore, cela. Croiriez-vous que voilà 3 mois que nous n'allons plus au collège ? Sans gilet ni cravate, les pieds dans des pantoufles, les deux petits avaient bien cette mine de flemme et de désœurement, commune à tous les réfractaires de l'école ou de la caserne. Nous priver du lycée, c'est ce qui lui faisait le plus de peine, encore plus que d'envoyer notre petite sœur Dinah à Cherbourg, chez sa marraine qui s'en est chargée. Ah, voilà maman! Ils ne lui laissèrent pas le temps de s'asseoir, de lever sa voilette sur sa bouche de fièvre, ses joues pâles toutes marbrées. « Qu'as-tu fait de papa ? » demandèrent-ils tous deux ensemble. « Eh bien, mes enfants, votre père !» Elle s'était préparée à mentir pour ne pas leur porter tout de suite un coup trop dur. Mais la présence imprévue d'Isora, cette figure amie et apitoyée, lui enleva tout courage. Elle connaissait la lettre de son mari et savait qu'un mot, rien qu'un mot échangé entre eux, allait la faire sangloter et tout dire. Aussi se contenta-t-elle d'un bonjour muet et continua, comme l'absentant de la scène. « J'ai laissé votre père plus calme. J'espère que nous n'avons rien à craindre pour aujourd'hui. » La pauvre femme détournait la tête, s'efforçait d'échapper aux yeux de soupçon qui l'épiaient. « Mais pourquoi l'as-tu quitté, maman ? » demanda Raymond, méfiant, presque sévère. La mère, courbant la tête, répondit, très douce, très humble, comme si elle était en présence de son mari, ou comme si l'aîné déjà le remplaçait en autorité. « C'est afin de vous tranquilliser plus vite, mes chéris !» Et, pour échapper à d'autres questions, elle dit, en tournant vers Isoar un regard navré qui avouait, « Ah, monsieur Marc Javel est bien cruel envers nous !»« Ça, je ne peux pas me le figurer !» tonna le petit homme à longue barbe de fleuve. « Javel, avec qui je me trouve en rapport à la chambre, est un républicain de la bonne, comme nous disons, un enfant du peuple né dans le petit commerce dont il connaît toutes les misères. En 1870, pendant le siège, je l'ai entendu parler dans une réunion publique du renouvellement des échéances, remuer toute une salle en quelques paroles sur l'angoisse de la traite à payer. L'homme qui disait ces choses serait le plus abominable des hypocrites. D'ailleurs, madame Deline, j'ai une voiture à la porte. Que les enfants y montent avec moi, nous irons chez le sous-secrétaire d'État. Il ignore qu'on vous fait vendre, j'en suis sûr, et je vous réponds en tout cas que la vente n'aura pas lieu. « Dieu vous écoute, mon ami !» soupira la mère. Et, sans oser regarder les enfants, elle leur commanda d'aller s'habiller bien vite. Derrière eux, le sanglot qui l'étreignait éclata dans un déchirement. « Pauvre petit » murmura-t-elle, la figure entre les mains. Isoar vint s'asseoir au bord du divan où elle s'était effondrée. À peine s'il osait l'interroger. Était-ce possible ? Eudeline aurait-il accompli sa menace ? Elle fit signe que oui, la figure toujours entre les gants de fil. Il la regardait stupéfait. « Mais vous n'étiez pas là ? Vous ne l'auriez pas laissé faire ? Et puis, est-ce qu'on se tue pour de l'argent ? Eh, je lui en apporte, moi, de l'argent. Pas beaucoup, mais enfin quelque chose. » Sous les phrases ardentes qu'il lui jetait, hachée de gestes vifs, la malheureuse femme se contentait de secouer la tête. « Ah, monsieur Isoar, si vous saviez !» Soudain, il se rappela ce manquement à l'honneur dont la lettre d'Eudeline lui parlait. « De quoi s'agissait-il, voyons ? À un ami comme lui, on pouvait tout dire. »« Eh bien, voilà !» Humble et le front penché, comme au confessionnal, elle lui chuchota d'une voix morne la navrante confidence que le pauvre Deline venait de lui faire à elle-même pendant qu'il marchait le long du canal. Hélas, toujours l'horrible loyer, toujours la terreur de Marc Javel. Des marchandises, en dépôt à la fabrique, engagées au moment du terme, puis vendues, faute d'argent pour renouveler. Alors la plainte portée, le juge d'instruction, l'envoi en correctionnel, Mazas, le déshonneur pour lui, pour les enfants. « Ah, mon ami, c'était cela surtout qui l'affolait. la pensée que nos petits auraient à rougir de leur nom, que de braves gens comme vous n'oseraient plus les recevoir. « Si je meurs, me disait-il, on ne me poursuivra pas, le nom de nos enfants ne sera pas sali d'une condamnation. Moi, je résistais, vous pensez bien? Je priais de ne pas se tuer. » Mais il me parlait avec tant de force, il trouvait des raisons si justes pour me prouver que sa mort était la seule façon d'arranger tout, de le sauver, lui, de la prison, et nos petits de l'infamie. À la fin, je ne savais plus que répondre. Violent, despote comme il était, j'ai toujours cédé, vous savez bien. J'aurais dû crier, m'accrocher à lui. J'étais anéanti, hébété. Il m'a dit brusquement, « Embrasse-moi, mes mères, et va-t'en sans te retourner. » J'ai fait comme il me disait, et maintenant je suis là, sans savoir. Dieu te protège, mon pauvre homme. » Les enfants rentraient. Elle s'interrompit, inspecta leur toilette de ses mains tremblantes, pendant qu'Isoard songeait épouvanté à ce suicide héroïque si naïvement consenti par cette malheureuse ilote. Du moins que sa mort serve à quelque chose, se disait-il, en emmenant les enfants rue de la Ville-l'Évêque, où le sous-secrétaire d'État à l'intérieur habitait un ancien hôtel avec jardin à la porte du ministère. Le sous-chef sténographe à la chambre met au clair pour l'imprimerie le compte rendu de la séance en l'émaillant des « bravos à droite » ou « à gauche », rumeurs sur quelques bancs, applaudissements prolongés. On comprend que les députés aient tout intérêt à se mettre bien avec lui. Aussi le Marseillais était-il sûr qu'au reçu de sa carte, monsieur le sous-secrétaire d'État, même en train de déjeuner, se garderait de le faire attendre ou de le renvoyer à un autre jour, comme il n'eût pas manqué d'agir avec de bien plus hauts fonctionnaires que lui. À peine introduit dans un cabinet de travail tel qu'il n'en avait jamais vu, celui du proviseur de Charlemagne semblait une antichambre à côté, un cabinet somptueux et haut comme une église, avec de longs vitraux peints, des tapis profonds, des sièges en cuir et vieux chêne, à distance majestueuse les uns des autres, les enfants, intimidés déjà, perdirent contenance en voyant s'avancer, les mains tendues, un haut personnage au teint de rose, aux moustaches blondes et soignées, le geste arrondi dans des vêtements sombres de laine anglaise, la serviette du déjeuner jetée sur le bras en indication. « Mon cher maître, que me vaut cette bonne visite ?» Isoard lui montra les deux enfants. « Les fils de votre locataire de Ligne, monsieur le sous-secrétaire d'État. » Aussitôt le sourire de Marc Javel se figea, les coins de sa bouche, de ses yeux, retombèrent, et blafa, les paupières allongées, il proféra quelques phrases explicatives. Le matin, précisément, il avait reçu de monsieur Eudeline une lettre très exaltée, de ces lettres comme en reçoivent tant de gens en vue, qu'il avait renvoyées à son avoué Petit Sanier, chargé de la succession Javel. Or, voici le petit bleu que l'avoué venait de lui répondre. Le père Ezoin, à qui le sous-secrétaire d'État passait la dépêche discrètement, dit très vite « Nous n'avons rien à cacher à ces enfants, hélas !» Et il lut tout haut « Je ne crois pas un mot de ce suicide. On veut continuer avec le neveu le même jeu d'exploitation qu'avec la tante. Je maintiens la vente pour après-demain, samedi. » Du coin où les deux enfants s'étaient involontairement blottis, le même élan furieux les jeta en avant, indignés. Tous deux voulaient parler à la fois. Mais Tonin, le petit, le rouge, ne put faire que les gestes de sa colère. Une contracture nerveuse empêchait les mots de sortir d'entre ses dents, serré dessus à les broyer. L'aîné, Raymond, n'était guère plus éloquent avec sa voix en mue, le dégingandage de son grand corps poussait trop vite. Pourtant, comme il fallait un défenseur à celui qu'on outrageait devant eux si injustement, l'enfant sut se tirer d'affaire. Non, leur père n'était pas un imposteur. S'il avait dit qu'il se tuerait, c'est qu'il voulait le faire certainement. Et il se tuait pour échapper à un mauvais singe qui s'acharnait après lui, Monsieur Petit Sanier et puis d'autres. Ça, on le saurait, il le dirait partout, il l'écrirait dans les journaux. Ah, mais c'est que... Le père est mort, monsieur le ministre, on ne l'aura pas encore dit, murmura le Marseillais, inquiet de cette fugue exaspérée. Mais un vague sourire de commisération aux lèvres de Marc Javel le rassura tout de suite, et convaincu que le haut fonctionnaire était aussi remué que lui, il ne se gêna plus pour écraser deux grosses larmes que ses cris d'enfant lui mettaient au coin de l'œil. Ah, pauvre vieille barbe, comme si un homme politique et pratique, habillé de solides étoffes anglaises, pouvait s'émouvoir à ce petit drame de famille contemporain de Diderot. Tout de même, le gamin avait parlé de journalistes et M. le sous-secrétaire d'État les craignait, les journalistes. Sous ce titre, l'héritage Javel, il se figurait un premier pari, relatant la mort volontaire de Victor Eudeline et la visite des enfants rue de la Ville-l'Évêque. C'est cela qui ferait un beau tapage. Il s'agissait de réparer bien vite la gaffe de Petit Sanier. Heureusement, Isoard de Marseille était là, aussi bénisseur que bavard, étendant vers lui sa main loyale, large ouverte. Mon cher maître, Marc Javel prêtait ce titre à tous ceux auxquels il n'en pouvait donner d'autres. Mon cher maître, je vous remercie de m'avoir amené ces jeunes gens et de l'occasion que vous m'apportez de réparer une injustice. Puis, s'adressant avec une douceur divine à Raymond stupéfait, j'ignore, mon jeune ami, si votre père a donné suite à sa fatale résolution. J'ose espérer encore qu'il n'en est rien. En tout cas, dites à madame votre mère, de ma part, que si les gens de loi ont un langage, les honnêtes gens en ont un autre. Il n'y aura pas de vente chez vous, après-demain, ni les samedis suivants. Je savais bien que je retrouverais mon Marc Javel, s'écria joyeusement le scénographe, se retenant pour ne pas sauter au cou du ministre orateur. Ce n'est pas la vente, en effet, qui eut lieu le surlendemain, mais l'enterrement d'Eudeline, retiré du canal au bout de quelques heures, et que sa femme avait obtenu de faire passer par Saint-Joseph de Belleville. Les obsèques, dont Isoard faisait les frais, furent très convenables. Beaucoup de monde, surtout des ouvriers et du petit commerce. Les grandes maisons en voulaient aux successeurs de Guillaume Ayôme pour ses théories humanitaires et sociologues. Mais combien regrettèrent leur abstention quand on apprit que le sous-secrétaire à l'intérieur était venu jusqu'au cimetière. Pour atténuer la mauvaise impression dans le public, Marc Javel avait compris qu'il devait assister aux funérailles de sa victime. Même il eut l'ingéniosité d'amener avec lui, comme bouc émissaire, son avoué Petit Sanier, type de sollicitor, obèse et jouisseur, que les ouvriers de la fabrique, vaguement informés, accueillirent de grognements et de mines revêches. Quant à Marc, lorsqu'on le vit descendre du coupé ministériel, ganté de noir et si correct, devant cette lointaine église de Faubourg, il y eut pour le recevoir un sentiment de sympathie universelle. Pierre Isoard et les enfants, qui l'attendaient sous le péristyle, sachant qu'en sa qualité de franc-maçon et de vénérable, il n'entrait jamais dans les églises, s'avancèrent tous les trois, congestionnés de larmes, pour le remercier d'être venu. Fortitudo animi, dit tout bas, en lui montrant le catafalque embrasé de cierges sous le porche, le scénographe à qui son émotion remémorait de vieux textes de son professorat. Le ministre ne savait pas le latin et s'en cachait comme d'une lèpre. Mais il comprit au jugé que ce fortitudo faisait allusion à la mort héroïque de ce père pour ses enfants, et l'aîné se trouvant près de lui, il le mit contre sa poitrine d'un grand geste d'adoption. « Enfant, dit-il de sa voix suave et pleine, qui s'entendait de loin, votre père était un de ces républicains de vieille roche auxquels le gouvernement de la République n'a rien à refuser. » Tout ce que Victor Eudeline nous demande dans sa lettre d'outre-tombe pour Eudeline Raymond, fils aîné de sa veuve et soutien de famille, sera fait. J'en prends l'engagement devant tous ceux qui m'écoutent. Et il y en avait. De ce jour date le premier pas, le pas décisif de Marc Javel sur le grand chemin de la popularité où nous l'avons vu depuis évoluer avec une souplesse, une vitesse sans exemple. De ce jour aussi, Raymond prit possession de son nouvel emploi de soutien de famille. Il en devina les responsabilités et les servitudes à une espèce de pitié, de déférence, dont il se sentit subitement enveloppé, tandis qu'il marchait derrière le corbillard avec son frère. Sans doute, la mort de ce père si indulgent, si tendre malgré ses violences, leur causait une peine affreuse. Mais à son chagrin personnel se mêlait je ne sais quelle fierté, et même un peu de pause. Il ne pleurait pas un enfant comme Antonin et marchait, le dos rond, avec importance et solennité. Cette attitude morose, fort au-dessus de son âge, cette sensibilité toujours exagérée et un peu fausse, il la garda pendant les 3 ou 4 ans qu'il passa comme boursier à Louis-le-Grand pour finir ses classes. Son histoire, à peu près connue dans le lycée, surtout la faveur du ministre, à qui on savait qu'il devait sa bourse, lui faisait une célébrité. Au parloir, les élèves le montraient à leurs parents. « Tu vois, ce grand blond de 3e B, il n'a que 15 ans, il est déjà soutien de famille. » Et le surveillant, que les mères interrogeaient à leur tour, chuchotait d'un ton de mystère « Un jeune homme très protégé !» Comme toujours, cette protection fut plus illusoire qu'effective. Quelques semaines après les funérailles de Deline, le sous-secrétaire d'État se faisait annoncer chez la veuve, très fier de cette visite, et qui les recevait, lui et son homme d'affaires, Petit Sanier, dans ce bureau du rez-de-chaussée où le désespéré avait sué sa nuit d'agonie entre le grillage de la caisse et 2 rangées de livres de commerce en basane. Pierre Isoard et le comptable Alexis se trouvaient là sur la demande expresse de Marc Javel, avec qui ce conseil de famille avait été combiné par Madame Eudeline devant l'impossibilité de continuer le commerce de son mari. Une nature molle et rêvassière, une éducation sans mère, commencée au Sacré-Cœur, puis achevée aux environs de Paris par une institutrice romanesque, dans la solitude de ce château de Morangis, où s'était retiré le vieux Guillaume Ayôme, n'avait pas permis à sa fille d'être pour le ménage cet appoint d'activité et d'intelligence féminine qui, dans le commerce parisien, est l'explication de bien des fortunes. Le goût et l'instinct des affaires lui manquaient. La violence de son mari lui en donna l'horreur et le tremblement. Cet homme excellent, qu'il adorait, la mettait en fuite avec ses cris, et après 18 ans d'une vie à 2 assez heureuse en somme, la laissait, comme le servant d'une pièce de marine au fort calibre, ahurie et presque sourde. Un détail en dira plus que tout. Dans ses bureaux où se tenait le conseil, depuis son mariage, elle n'était pas entrée 2 fois. On comprend qu'ainsi désarmée, avec des enfants tout jeunes, la malheureuse femme recula devant une succession commerciale dont le comptable lui étalait tous les dangers, tous les embarras, triomphant de la netteté et de la régularité de ses livres. Une maison très achalandée, sans doute, mais déjà vieillie. Beaucoup de désordre, des créances périmées et des dettes, sans parler des termes en retard que les factures à recouvrer ne paieraient certainement pas. Comment sortirait-elle de là? Vendre le fonds? Mais il faudrait s'acquitter d'abord. Sans cela, qui voudrait d'un fonds usé, troué comme la bassinoire à Babet? Monsieur Alexis, qui tenait à son expression berrichonne, la répéta plusieurs fois pendant qu'Isoard et Madame Eudeline se regardaient consternés. « Eh bien, moi, j'ai un acquéreur, » fit Petit Sanier sur un signe de son illustre client. Il nomma les frères Nathan, de petits marchands de meubles de la rue de Charonne, qui prendraient la maison avec dette, termes en retard. « Et l'immeuble de la cour ?» demanda vivement Pierre Isoard. L'avoué ouvrit les bras comme s'il laissait tomber l'affaire. Les Nathan n'avaient pas parlé de l'immeuble, qui du reste accaparait l'air, le jour et la place dans une cour déjà trop petite. Ils seraient enchantés de s'en débarrasser. Madame Eudeline eut de la peine à retenir ses larmes. Comment ne pas même leur rendre le prix de la construction, les 10 000 francs que Pierre Isoard leur avait fait prêter? Le gros avoué avança une lippe méprisante. Une des nombreuses erreurs de ce pauvre monsieur Eudeline, l'idée de cette construction. Ne pensez plus à cela, cher ami, interrompit le scénographe. La personne qui vous a prêté cet argent n'est pas pressée de le ravoir. Marc Javel eut un sourire indulgent. « Elle est donc bien riche, cette personne ?»« Dans mon genre, monsieur le ministre, » dit le Marseillais tout épanoui. « En ce cas, mon cher maître... » Monsieur le sous-secrétaire d'État tirait de sa jaquette un élégant portefeuille en galucha, y prenait un chèque qu'il signait au bord du bureau avec la plume d'Alexis, encore un cher maître à remercier, et remettait au sténographe un bon de 5 000 francs, afin que son imprudent ami n'y fût pas de toute la somme déboursée. Isoard rougit, protesta, puis, à la réflexion, « Eh bien si, tout de même, j'accepte pour Madame Eudeline, qui va se trouver encore moins riche que moi et que mon ami. » La pauvre femme ne savait plus où elle en était. On lui devait déjà tant à ce bon monsieur Marc Javel. Quelques jours avant, c'était la bourse de Raymond. Ensuite, une lettre de recommandation pour Esprit Cornat, l'ancien membre de la Constituante, maintenant directeur d'une grande maison d'appareils électriques, où Pierre Isoard venait de faire entrer Antonin comme apprenti. C'est 5 000 francs par là-dessus. Madame, je vous en prie, murmura Marc Javel, paternel et doux comme l'Évangile. Dans le coupé du ministère, qui descendait à fond de train la pente boueuse du faubourg, l'avoué Petit Sagné reprochait à son client cette générosité inutile. « Que diable ! Je vous arrange une affaire superbe, je vous débarrasse d'un bail ridicule, d'un locataire dangereux, je vous fais cadeau d'un immeuble magnifique, et vous venez gâter mon chef-d'œuvre avec vos 5 000 francs, vrai !»« Maître Petit Sagné, dit le grand fonctionnaire, approchant de sa narine un cigare de la Havane, aussi bien roulé et du même ton fauve que sa moustache, « je n'aime pas les affaires trop belles et me méfie de ce qui ne me coûte rien. Cet argent n'est pas perdu, croyez-moi. Vous êtes là pour sauvegarder l'héritage de la tante. Mais moi, j'ai ma carrière politique à surveiller. » « Et vous vous y entendez, patron ? » fit avec une gaieté respectueuse l'avoué, qui, jusqu'alors, avait pris son client seulement pour un homme heureux. Ces 5 000 francs, en attendant que Raymond fût en âge de tenir efficacement l'emploi de soutien de famille, permirent à la veuve, qui s'était réfugiée à Cherbourg chez la sœur de son mari, d'y vivre moins à l'étroit et d'envoyer quelques douceurs à l'interne de Louis le Grand et à l'apprenti d'Esprit Cornat. Les lettres qu'elle écrivait à ses garçons, à l'aîné surtout, chargé de leur avenir, se plaignaient de l'exil auquel la mère et la fille se voyaient condamnées pour longtemps, et le même désolant post-scriptum suivait invariablement la signature « Travaille, mon enfant, travaille, et tire-nous d'ici au plus tôt !» Il travaillait, le malheureux, mais par une extraordinaire malchance, lui qui, jadis, sans aucun effort, emportait tous les prix de sa classe à Charlemagne, à présent que ses études avaient un but défini, volontaire, n'obtenait pas même une nomination à la fin de l'année. Ses maîtres, confidents de sa peine, témoins de ses efforts, attribuaient à une fatigue de croissance cet arrêt subit de l'attention, de la mémoire, chez un être aussi parfaitement équilibré. Isoard, lui, l'expliquait par la secousse nerveuse dont la mort tragique du père avait ébranlé les deux enfants. « Regardez Antonin, le plus jeune !» disait-il à Marc Javel un jour qu'ils en parlaient dans un couloir de la chambre. « Depuis le suicide de Deline, ce pauvre petit est resté comme bègue. Il bredouille, il cherche ses mots. Qui sait si ce trouble, cette hésitation de la parole, ne se sont pas portés chez le grand frère sur les ressorts de la volonté ?» « Possible, mon cher maître. C'est égal. Faites-le venir un dimanche matin au ministère. Ça se soigne, ces choses-là. Au revoir, et ne manquez pas de m'amener votre jeune homme. » Isoard n'y manqua pas, certes. Mais il arriva que sur les innombrables visites faites à son protecteur, soit à l'intérieur, aux finances ou au commerce, postes divers, successivement occupés par Marc Javel, le boursier de Louis le Grand fut reçu, en tout, 2 fois pendant la durée de ses études, à peine 5 minutes chaque fois, et pour entendre le même boniment que sous le porche de Saint-Joseph, les mêmes engagements pris au nom du gouvernement de la République envers Eudeline Raymond, fils aîné de veuve et soutien de famille. Ne l'oubliez pas, jeune homme. Il eût mieux valu pour un temps que le jeune homme les oubliât, ces lourdes et solennelles charges d'avenir. Car l'idée qu'il se faisait de sa tâche, la crainte de n'être pas de force à la remplir, ne pouvait que le paralyser, privé de tout élan, de toute joie, ses brèves années de jeunesse. À une matinée du Théâtre Français, où 2 divisions de Louis le Grand avaient été conduites, Hamlet, que Raymond voyait jouer pour la première fois, le remplit d'un désespoir un peu théâtral et forcé comme toujours, mais dont il n'avoua la cause qu'à un type de rhétorique lettre, un nommé Marquès, qui marchait dans le rang à côté de lui, au retour du spectacle. « Pourquoi il me fait pitié, ce prince de Danemark? Pourquoi je pleure sur lui comme sur un de nous? C'est parce qu'il me ressemble, vois-tu, Marquès, qu'il a comme moi une tâche au-dessus de ses moyens, à laquelle il pense à toute heure et qui lui interdit tout plaisir. Lui non plus n'a pas le droit d'être jeune, d'aimer et d'être aimé, d'avoir son âge. Il faut qu'il soit un héros, un vengeur, et il sent qu'il ne peut pas. C'est à vous fendre l'âme. » De cette confidence que le type de rhétorique lettre racontait le soir à sa mère, une femme de ministre, je vous prie, naissait chez cette dame, que la haute gomme républicaine appelait encore la belle marquesse, un vif intérêt pour ce blondin à l'âme romanesque et d'une si jolie nuance de cheveux. Mais cette curiosité latente ne fut satisfaite que plus tard. Raymond alors ne voulait voir personne, n'acceptait aucune invitation. Ces dimanches, il les passait au Palais Bourbon, chez Isoard. Plus souvent à Morangis, un petit village de banlieue, où, depuis la maladie de sa femme, le sténographe prenait l'habitude de vivre une partie de l'année. C'est ce même Morangis qu'habitait le vieux fabricant Guillaume Ayome, retraité du commerce, et le lien s'était fait entre les deux familles par cette rencontre de villégiature. Tous les samedis soirs, Isoard et Eudeline descendaient à la station d'Antony et, laissant Madame Eudeline monter dans la correspondance avec sa fille, suivaient à pied un de ces chemins creux, ombragés de vieux ormes, un arbre démodé qui ravine l'immense plaine entre la Belle Épine et la tour de Montlhéry. Délice toujours nouvelle pour le fabricant du faubourg, cette marche d'une heure entre deux haies d'aubépine et de prunelles, au bras du vieux scénographe qui lui révélait les dessous de la chambre, les mystères des couloirs, clamant de sa voix de tonnerre « Gambetta me l'affirmait aujourd'hui même à la buvette !» ou « Je tiens de Monsieur Dufort que la loi ne passera pas !» Pendant que Raymond et Antonin se roulaient, semaient leurs livres et cahiers de classe dans les champs de Saint-Foin et de Betterave, mêlaient leur expansion bruyante au tire-lit de l'alouette montant et tourbillonnant au-dessus des moissons, comme prise entre les mailles blondes du soleil couchant. À l'entrée de Morangis, à la croisière de trois routes, s'érigeait, au milieu d'un terre-plein de verdure, un grand peuplier d'Italie qui avait un passé politique et que le père Ayome, déjà propriétaire dans le pays en 48, se souvenait d'avoir vu tout ébranché, sans écorce, peint aux trois couleurs et baptisé « Arbre de la liberté » par le curé de ce temps-là. Devant ce peuplier, retourné depuis lors à la nature, rentré dans la vie civile, nos Parisiens trouvaient, le samedi soir, Geneviève Isoard qui les attendait, entourant d'attention le pliant de la malade, tout en bobelinet de châle, et près d'elle, le vieux Guillaume Ayome, masque de Voltaire retouché par la biche, toujours la tabatière à la main et une bonne prise massée entre deux doigts, venu au-devant de ses petits-enfants qu'il adorait. On s'arrêtait un moment pour causer politique, sans s'entendre jamais, car il y avait là des générations différentes, chacune avec sa façon de sentir, même de parler. Puis, la fraîcheur du soir faisant frissonner le grand peuplier jusqu'à la cime, Geneviève, inquiète pour sa mère, donnait le signal et l'on se séparait, d'un côté la malade marchant doucement entre son mari et sa fille vers un très ancien pavillon de chasse qu'ils habitaient, composé d'un rez-de-chaussée sur perron, avec de hautes fenêtres à tout petits carreaux, ouverte sur 10 lieues de blé et de colza. Par la route opposée, le grand-père Ayome s'en allait de son petit pas vif de vieux séco, en tête de la famille Eudeline et dans la direction du château, qu'on apercevait, énorme et noir, avec sa façade flanquée de deux grands tulipiers, toutes ses vitres rougies par le couchant, lui donnant l'aspect d'une bâtisse incendiée, restée debout par sortilège. D'année en année, l'arbre de la liberté, dont le fête s'ébranchait peu à peu, avait vu s'éclaircir son petit groupe d'amis du samedi soir. Le vieux Guillaume manqua d'abord, ensuite Victor Eudeline, et quelques mois après, Madame Isoard, qui avait endormi son éternelle plainte dans le cimetière de Nice. Enfin, Madame Eudeline et Dina, dont l'exil en province semblait devoir durer longtemps encore. Pour attendre le scénographe à son arrivée de Paris, un soir, il n'y eut plus, à la croisière des chemins, que Geneviève en grand deuil et son amie Casta, de son vrai nom Sofia Kastaniozov, petite boulotte à lunettes, fille d'un grand marchand de grains d'Odessa, et qui, venue à Paris faire sa médecine contre la volonté des siens, donnait, afin de payer ses inscriptions, des leçons de toutes les langues mortes et vivantes, de toutes les connaissances que sa mémoire slave et sa vaste intelligence avaient emmagasinées. Pierre Isoard, qui, par aventure, ne partageait pas sur le cerveau féminin les méprisantes théories de son maître et ami J.B. Proudhon, aurait voulu, aidé de l'ami Casta, procurer à sa fillette, le Marseillais disait « filiette », l'éducation classique complète des jeunes garçons. Mais la maladie de la mère, les voyages dans le Midi, empêchèrent Geneviève d'aller jusqu'à 2 baccalauréats que son père lui désirait. Quand elle revint du Midi, toute seule et si blanche dans ses vêtements noirs, avec ses yeux trop brillants, des lèvres de piment rouge, ses amis s'alarmèrent. Elle dut vivre à la campagne, s'interdire toute fatigue, et Sophia, dans cette petite maison de Morangis, où elle trouvait un écho à ses idées de justice idéale et d'émancipation universelle, ne vint plus que comme amie et comme médecin. Pourtant, Geneviève, bien qu'interrompue au milieu de ses études, en savait assez pour faire travailler Raymond, plus jeune qu'elle, lui donner des répétitions de latin et même de mathématiques, auxquelles l'écolier pensait toute la semaine, rêvant de ses après-midi du dimanche qu'il passait dans un coin de la salle à manger de Morangis, sombre ou claire selon la saison, assise au pied de cette exquise grande sœur que les enfants nommaient Tantine, un Virgile ouvert sur des genoux qui le brûlait à travers les jupes. Raymond approchait de ses 18 ans. Il entrait en philosophie. Nos philosophes de lycée se reconnaissent d'ordinaire à une mine soucieuse, une gravité de chambellan, fier de portée, brodée dans le dos, ces deux clés symboliques et mystiques avec lesquelles Kant et Schopenhauer leur ouvrent toute l'âme humaine et toute la vie. Ne riez pas, c'est une des misères de notre pays, l'importance donnée, chez nous, depuis la guerre de 70, à la philosophie, surtout la philosophie allemande, qui remplace dans nos lycées ces lumineuses humanités, si longtemps le rendez-vous, comme le palier intellectuel des études supérieures. Assombri déjà par ses devoirs et droits d'aînesse dont il s'exagérait les responsabilités, cette étude nouvelle, à laquelle Raymond s'initiait, aurait dû le plonger dans le noir le plus noir. Le professeur était navrant, la doctrine désespérée. Sorti de classe, les élèves entre eux ne parlaient que de suicide et de mort, de la laideur de l'existence et du néant de tout. Et pourtant, dans la morne jeunesse du boursier de Louis le Grand, elle compta comme la meilleure cette année de philosophie, qui s'ouvrit sur un dimanche d'octobre 1883, entre tous les autres inoubliables. Ce matin-là, Geneviève et son ami Casta, arrivés à Morangis depuis la veille, attendaient au carrefour de l'Arbre de la Liberté le père qui était allé prendre Raymond à la gare d'Antony. Assise sur l'herbe jaunissante et rase, le dos au grand peuplier à demi défeuillé par l'automne, l'étudiante écrasait son large nez calmouc et ses verres de myope dans un cahier de notes de médecine qu'elle ne lisait pas, pendant que Geneviève piétinait d'un chemin à l'autre, chassait les pierres du bout de son ombrelle, traçait devant elle, dans la terre, des ronds, des lignes, toute la graphique inconsciente de l'attente distraite et de l'impatience. Entre les deux amis, le contraste était le même qu'entre leurs attitudes. La Russe, lourde, courte, sans âge ni sexe, la peau fanée, vêtue et chapeautée dans les magasins du quartier. L'autre, guère plus de 20 ans, d'une élégance longue et pleine, dont le deuil finissant s'éclairait d'un chapeau de paille blanche garni de violette, abritant l'éclat rosé du visage, des yeux d'un gris de velours, une bouche trop rouge et trop grande, accentuée en bonté. Envahie par le silence du dimanche, cette immobilité de tout qui se perçoit si vivement dans les plaines où le travail a le geste plus large, s'entend et se voit de plus loin, elle se taisait depuis longtemps, quand un coup de feu assez proche, mais comme étoupé par le léger brouillard derrière ses ongles, fit dire à Casta, sous l'éclair malin de ses lunettes, « Tiens, le fils Mauglan est en train de vous tuer des grives !» L'ombrelle de Geneviève continuant à griffonner distraitement sur le chemin, « Vous n'êtes pas juste pour ce garçon, » reprit Casta. « Il a l'air de vous adorer, il a du talent, il est modeste. » Car vous êtes resté bien longtemps sans vous douter que le fils de vos voisins, les vieux maraîchers, entouré par lui de tant de soins, de tendresse, fut le Mauglas des débats, de la revue, le savant critique musical, auteur de ses belles études sur les danses grecques et syriaques, d'après les médailles. Je ne prétends pas qu'il soit beau, ni même élégant, mais enfin, pour vous, il s'efforce, il se soigne. Et puis, il a l'air d'un mâle, celui-là. Ce n'est pas un travesti. Épousez-le, ma chère, lui jeta Geneviève, se retournant avec dépit. L'étudiante leva du cahier de notes sa pauvre face d'esquimaude, endimanchée de rubans et de panaches, pour répondre doucement, sans la moindre rancune. Moi, je voudrais bien. C'est à lui que ça n'irait pas, faite comme je suis. Seulement, écoutez, ma petite. Elle l'attira d'un appel affectueux et, la tenant par les mains, droite devant elle, « Il faut pourtant que je vous le dise ce que j'ai depuis longtemps sur le cœur. Que faites-vous? Où allez-vous? Où conduisez-vous cet enfant qui a 4 ans de moins que vous et dont vous ne ferez jamais un homme, n'importe comment vous y tâcherez? Encore, si c'était le petit frère, Tonin. Il n'a pas même 16 ans, lui, et c'est un bègue, une moitié d'infirme, mais quelle énergie, quelle volonté! Tandis que l'autre... Croyez-vous vraiment qu'il travaillait quand vous le teniez des journées près de vous, contre vous, vos yeux dans le même livre? Il en a pourtant bien besoin de son travail, pour lui comme pour les autres. Et c'est vous qui l'en détournez. Je pense à tout ce que l'on a imaginé pour expliquer la diminution évidente des forces d'attention et de compréhension de ce jeune Deline. Ce n'était pas sorcier à découvrir. Vous avez été le prétexte à l'indolence de ce lymphatique, son opium. Arrêtez-vous, ma chérie. Vous êtes en train de faire son malheur à ce petit, et peut-être le vôtre. Il n'y a pas de grande sœur qui tienne. La chair est un terrible piège où il se prend, où vous allez vous laisser prendre un de ces jours. Et alors quoi? Vous ne pouvez pas être sa femme. Autre chose? Non, n'est-ce pas? Je vous vois en détresse tous deux avant longtemps. Sans retirer ses mains, sans essayer d'interrompre ni de nier, Geneviève rougissante laissa son amie parler jusqu'au bout. Ses reproches qu'elle entendait, combien de fois elle se les était adressées à elle-même. « En voulez-vous la preuve, ma chère Sophia ?» Elle avait rapproché son loyal et beau sourire des verres de la myope pour bien lui montrer la limpidité de sa pensée et, tout bas, de tout près, comme s'il y avait autre chose autour d'elle que le silence et la solitude. « Je vais me marier, mon amie !»« Ah, brave fille !» dit l'étudiante dans un élan qui l'a mis debout. « Et avec qui ?»« Toujours mon même prétendant, l'homme de la questure, Siméon. Il doit venir déjeuner ce matin et renouveler sa demande. Seulement, cette fois... » Casta la regardait ahuri. « Non, vraiment, c'est sérieux ?» Siméon, vous vous décidez pour Siméon ? L'arc de ses gros sourcils s'accentuait à chacune de ses phrases d'étonnement et de stupéfaction. Comment ce bellâtre de ministère, méthodique, à remontoir, ce lièvre peureux de son ombre, sans passion, sans idée, n'ayant jamais rien dit ni pensé qui n'ait été pensé et dit par tant d'autres avant lui ? Voilà ce que Geneviève Isoard préférait au talent fier, à l'intelligence indépendante de Mauglas. Voyons, mon petit, vous êtes donc devenu sotte? Vous ne le trouvez pas assez chic, assez jeune? Non, ce n'est pas cela. Je ne le connais pas assez, Mauglas. Il me fait peur. C'est vous qui me faites peur, dites donc. Je ne connais ce garçon que par vous, et devant lui, j'ai toujours parlé librement de moi, de mes amis. Hier encore, il m'entendait raconter que j'avais caché dans ma chambre. « Oh, soyez tranquille !» interrompit Geneviève vivement. « Je le crois honnête. Seulement, il y a au coin de son rire, dans le pli de sa lèvre, je ne sais où, quelque chose d'obscur et de cynique qui me gêne. L'idée que cet homme pense à moi, qu'il emporte mon souvenir, mon image dans sa tête, m'est désagréable. » La Russe murmura. « Moi, qui en serait si heureuse. » Puis, avec un soupir, « Comme tout s'arrange mal dans la vie. » Des pas, des voix en marche s'approchaient dans le tournant du chemin. Sous ses rubans criards, les pommettes jaunes de l'étudiante s'empourprèrent d'innocentes lueurs. Elle venait de voir briller, derrière Isoard et Raymond, le canon d'un fusil de chasse et une plume de coq-faisan piquée sur un chapeau tyrolien. « Écoute ça, filiette !» gronda la basse taille du Marseillais, dont le clair matin irradiait la barbe en tablier de sapeur, de plus en plus longue et blanchoyante. « Écoute ça et dis-moi ce que tu en penses. Mouglas, que nous venons de racoler en route, prétend que d'une génération à l'autre, on est aussi loin que de Mars à la Terre ou n'importe quelle planète, et que des gamins comme Raymond, lorsque je leur parle du coup d'État de 1852 et du lâche reniement de Badingue, ne savent pas ce que je veux leur dire. Pas plus qu'ils ne comprennent ceux de ma génération qui leur prêchent la revanche et la guerre. Le retroussi d'une épaisse double lèvre, serrant une pipe anglaise, une pipe de chasse à tuyau court, ce sourire que Geneviève n'aimait pas, accompagna cette étrange affirmation d'un gros homme à la tête d'acteur bohème, de 35 à 40 ans, en houseaux jaunes aux boucles étincelantes et veston de velours trop neuf, qui s'approcha des jeunes filles avec un salut de cour jusqu'à terre, balayant le chemin de sa plume mordorée. L'étudiante, qui ne gâtait guère de ses attentions d'habitude, fut si fière d'avoir sa part de cette révérence, même ironique, que, le temps d'un éclair, sa pauvre figure en devint presque jolie. Naturellement, Mauglas n'y prit pas garde et continua, tourné vers Geneviève. « C'est comme si, devant mademoiselle, j'accusais Madame Lafarge d'avoir arseniqué son mari. Quelle que soit l'opinion de mademoiselle Geneviève sur cette cause célèbre, j'imagine qu'elle me l'exprimerait sans fanatisme, tandis qu'hier soir, à dîner, à la maison, j'ai cru que ma chère maman appellerait sur ma tête le feu du ciel, simplement parce que j'avais mis en doute l'innocence de cette sainte femme. Il y a comme cela des mots, des dates, qui sont des pierres de touche pour aider les gens d'une même époque à se retrouver, à se reconnaître aussi. Ainsi ce nom de Madame Lafarge, du vieux Raspail, de l'eau sédative, pour ma mère et votre père aussi, n'est-ce pas, mademoiselle ?» Geneviève lui jeta un oui distrait sans se retourner, absorbée déjà par Raymond, qui, serré contre elle, lui racontait en marchant une lettre désolante, arrivée le matin même de Cherbourg, une lettre où Madame Eudeline, à bout de force, écrivait avec des larmes à son grand-fils qu'elle désespérait décidément de revoir jamais son cher Paris, d'y vivre au milieu de ses enfants, et comme c'était une sentimentale, elle aussi, une contemporaine de Madame Lafarge, de Lélia, d'Indiana, elle suppliait Raymond de lui envoyer bien vite quelques fleurs d'un des grands tulipiers de Morangis, voulant avoir près d'elle et respirer, évoquer avant de mourir le souvenir de ces beaux endroits de sa jeunesse qu'elle ne reverrait plus. Il est vrai qu'en travers de cette lettre sinistre, deux lignes rassurantes de Dinah témoignaient de la parfaite santé de Madame Eudeline. Mais le pauvre enfant devait porter sur son cœur, depuis le matin, ses reproches détournés, ses doutes de sa mère, car la tantine sentait frissonner contre son épaule, la tunique en gros drap du lycéen. Kant ni Spinoza, pas même Schopenhauer, hélas, ne dispensant nos jeunes philosophes de leurs uniformes de potache. Et c'est justement ce jour-là qu'elle avait choisi pour lui causer une grosse peine. Ah, le fils des voisins pouvait pirouetter autour d'elle, essayer des effets de littérature et de houseaux neufs, pendant qu'ils avançaient tous ensemble d'un pas traînant de causerie à travers l'immense plaine espacée de bouquets d'arbres et de hautes meules. Elle ne voyait rien, ne songeait qu'à une chose. Comment lui dire qu'elle allait se marier? À quel moment lui dire? Avant le déjeuner, bien sûr. Raymond connaissait l'homme de la questure et ses intentions. Rien qu'en le voyant arriver, tout à l'heure, il comprendrait, et la nouvelle, apprise ainsi, sans explication, sans préparation, lui serait bien plus douloureuse. Seulement, le moyen d'être avec lui 5 minutes avant l'arrivée de Siméon. Soudain, la masse régulière et lointaine du château de Morangis, se dressant à sa droite avec les tulipiers de la façade, lui rappela le désir de Madame Eudeline. « Si nous lui cueillions ses fleurs tout de suite, » dit-elle tout bas à Raymond, et, sans attendre sa réponse, elle l'entraîna, en criant aux autres d'aller devant, qu'ils s'arrêteraient au château quelques minutes. À 22 ans, Geneviève Isoard, bien qu'élevée par une étudiante en médecine et un père aux idées très avancées, était restée une vraie jeune fille, d'une candeur et d'une innocence délicieuses. Plusieurs raisons à cela. D'abord, le père Isoard, de fabrication marseillaise, très complexe, à compartiments et cloisons étanches, voulait bien que sa fille fût instruite, mais ne tenait pas à en faire une lycéenne à uniforme, bourrée de mots scientifiques, pas plus qu'une jeune mondaine à l'affût des courses et des premières, parlant tous les argots, imitant les chanteuses de beuglans à la mode. Ayant élevé Geneviève en dehors de toute pratique religieuse, il la voulait d'autant plus réservée de manières et de langage. Là-dessus, un vrai papa du midi, farouche, intransigeant, d'un rigorisme de gardien de sérail. On citait ce mot de Geneviève, conduite par mégarde à un spectacle un peu vif et disant ingénument à son ami Casta « Tu comprends, c'est pour papa surtout que j'étais gênée. » Sans partager les idées méridionales du vieux scénographe, cette Sofia Kastanyozov, qu'il s'était adjointe pour compléter l'instruction de sa filiette, lui avait plu d'abord par la tenue sévère de ses mœurs et de son langage, ses effarouchements célèbres à l'école de médecine. Quand les étudiants, voisins de Casta, soit au cours, soit dans les promenades botaniques, voulaient se débarrasser de cette pauvre laide et de ces conférences humanitaires, ou seulement pour la joie de la voir rougir jusque dans la racine de ses cheveux fauves, ils n'avaient qu'à lâcher leur verve de voyous et de carabins. Elle s'écartait alors, avec des pudeurs de grosse chatte, un secouement de ses franges et de ses panaches. Outre ces deux influences éducatrices un peu spéciales, la maladie de sa mère avait tenu Geneviève constamment à la maison. Elle n'était jamais entrée dans un cours de demoiselles, ni dans un pensionnat, n'était pas d'esprit romanesque et manquait de ce qu'on est convenu d'appeler l'imagination, c'est-à-dire qu'elle s'absorbait dans ce qu'elle faisait, y mettait toute son attention, toute sa volonté. Ainsi s'explique l'ingénuité absolue où cette rayonnante créature était restée jusqu'à 22 ans, et comment l'instinct de maternité, le premier, le seul éveillé en elle, avait pu se transformer, devenir de l'amour presque inconsciemment. Quand elle s'en rendit compte, aux vacances dernières, cette découverte la remplit de confusion. Être aimée de ce collégien, cela se comprenait encore, mais l'aimer, elle aussi, s'émouvoir à son approche, rêver de sa jolie figure aux boucles blondes, de sa moustache de jeune hussard, de ses mains pâles et délicates, s'irriter quand il regardait d'autres femmes ou si la mère de son amie marquise le faisait demander au parloir, voilà de ses faiblesses dont elle n'eût jamais pensé souffrir. Cet enfant, à qui elle avait appris à lire, elle, Tantine. Ce serait abominable, un sentiment pareil, si ce n'était risible. Et tout de suite, elle essaya de se dégager, se surveillant comme la femme la plus subtile aurait pu le faire, évitant les contacts dangereux, les tendres familiarités. Mais que de peine, quel émiettement d'efforts inutiles! C'était toute son existence à refaire, un déménagement d'habitude. Et le père Isoard, effaré, qui demandait à chaque instant du jour « Qu'est-ce qui te prend, filiette ?» Et les yeux du petit qui se levait, stupéfait, désolé, embué de grosses larmes anxieuses, ces larmes d'enfant auxquelles les mères ne résistent pas. Alors, voyant combien ce qu'elle essayait était difficile et qu'elle n'en viendrait jamais à bout, elle s'était décidée à ce mariage héroïque.